3 mai 1968. La révolte étudiante bat son plein à Paris. Omar Blondin Diop est arrêté aux côtés de centaines d'étudiants lors de l'évacuation de l'université de la Sorbonne. Le jeune Sénégalais de 22 ans fait son entrée dans les fiches de renseignement de la préfecture de police de Paris. À partir de ce moment-là, il sera surveillé et perçu par les autorités françaises comme un agitateur redouté.
Confidentiel, préfecture de police de Paris. L'intéressé est connu aux archives de police judiciaire pour violence et outrage à citoyens chargés d'un ministère de service public. Figure au fichier des garnis comme membre d'un mouvement révolutionnaire.
Service de renseignement français, matricule 753-418. En novembre 68, Omar Blondin Diop s'est révélé comme l'un des agitateurs les plus violents et dangereux de la faculté de Nanterre.
Préfecture de Paris. Né le 18-09-46. Nationalité, sénégalaise. Étudiant. Domicilié en France, au 29 rue René Coty. Connu, extrémiste.
Trois fois, les manifestants ont chargé les CRS, trois fois les CRS ont reculé. C'est extraordinaire ce spectacle.
Des dizaines, des centaines de cailloux, de pavés qui volent maintenant. Des voitures se rembrouillent. Allez, la vague.
C'est maintenant l'affrontement recontact et je vous affirme que l'affaire est chaude et sérieuse.
À son arrivée à Paris en 1960, Omar n'a pourtant pas le profil typique de l'agitateur. Élève brillant, il fréquente les meilleurs établissements de France et devient le premier Sénégalais à intégrer l'école normale supérieure de Saint-Cloud. Mais le jeune homme est un iconoclaste, un personnage bouillonnant et atypique.
Nous sommes Florence Maurice et Clémentine Métainier. Vous écoutez Omar Blondin Diop, plutôt la mort que l'esclavage. Épisode 2, un révolutionnaire encombrant.
Gallimard Antoine. Je suis éditeur, troisième génération, celle en général qui détruit l'entreprise. Donc là, j'ai beaucoup de chance, j'ai évité la destruction.
Au lendemain de l'indépendance du Sénégal, le père d'Omar a fait le choix d'installer la famille à Paris pour obtenir un doctorat en médecine. Omar a 14 ans, il fréquente l'une des familles les plus influentes dans les milieux littéraires de l'époque.
Vous cherchez des photos, là.
Regarde, des photos d'époque. Des photos qui ne sont pas intéressantes, puisqu'on ne les voit pas bien.
Là, après, si vous l'avez en photo, montrez-moi. Hein.
Non, mais une photo jeune, là. Vous voyez, là, on va au lycée. C'est une lycée de classe.
Ah, oui. Vous pouvez me cette photo-là?
On voit le jeune Omar qui doit avoir... 18 ans, 17-18 ans, qui est habillé comme un prince arabe en train d'essayer de séduire une jeune française.
Il est dans votre album de famille, Omar.
Là, vous le voyez, là, l'été, par exemple. Omar, pour moi, quand j'étais plus jeune, c'était comme un frère. On partageait vraiment. C'était une sorte de frère. Voilà. Était extrêmement vivant, il ouvrait des fenêtres, ça me changeait. J'adorais sa façon de provoquer les choses. Bon, c'était une amitié très forte.
Omar rencontre Antoine Gallimard au lycée Montaigne, au cœur du quartier latin.
C'était à la rentrée, tout le monde s'était installé, ils se connaissaient tous plus ou moins. Et il était là, assis tout seul sur une table. Moi, j'ai trouvé sympathique, et puis je me suis assis à côté de lui. Et puis, bon, on était l'un à côté de l'autre, on a sympathisé. Et son caractère me plaisait beaucoup parce qu'il était très curieux, très avenant. Moi, j'étais plutôt discret et on s'est tout de suite bien entendu. C'était un garçon très brillant. Ce qui l'intéressait, c'était la musique. C'était Rolling Stone. C'était toute la musique des années 70. C'est vraiment un adolescent de son époque, comme je l'étais aussi, mais voilà, c'est de sortir un peu du milieu familial, en même temps, sans trop le critiquer.
Les deux amis passent le plus clair de leur temps libre ensemble.
Il aimait bien venir ici, parce que bon, là, c'était confortable. Il aimait un peu le confort de l'appartement. C'était quelqu'un de très douillet. Il avait tout le temps froid, fragile, et une tête bouillonnante. Il pouvait être très provocateur, il n'avait pas peur. En même temps, c'était quelqu'un qui était très, très sensible, même physiquement, mais il n'avait pas peur de provoquer. Il aimait bien avoir des expériences, vous voyez. Il fallait qu'il pousse la machine jusqu'au bout pour sentir un peu les résistances et ce à quoi on pouvait se heurter. Comme une toupie, quoi. Il n'arrivait pas à se fixer. Et je vous dis, il était vraiment, il avait un pied en Afrique, c'était vraiment sa famille, et puis un pied en France. On sentait bien qu'il était plein de contradictions.
Chez les Gallimard, il trouve aussi de quoi assouvir sa curiosité, nous raconte Florian Bobin, son biographe.
Donc déjà, il est introduit à travers Antoine Gallimard à un monde tout à fait singulier, de l'édition, des grands intellectuels qui passent par la maison des Gallimard, et Omar y est avec son ami Antoine. Il est déjà baigné dans cet environnement-là.
Qui est là ? Qui traîne dans cette maison ?
Louis Aragon, sans doute Jean-Paul Sartre, sans doute Malraux, voilà. Disons les grands noms de la littérature française à l'époque.
Omar a hérité de son père un appétit pour le débat d'idées. Depuis tout jeune, il lit beaucoup et de tout, mais c'est au lycée qu'il goûte à ses premiers engagements politiques.
Il fait tout son lycée au lycée Louis-le-Grand. Donc là, on est en 63-64. Il commence déjà à fréquenter des meetings et des réunions de l'UEC, l'Union des étudiants communistes en France, bien implantée à Louis-le-Grand. Omar, donc à 16 ans, 17 ans, on est dans l'après-guerre d'Algérie, après les accords d'Évian, on est juste après les guerres de libération, et puis surtout la diffusion du communisme sous ses différentes formes. Donc il intègre la prépa de Louis-le-Grand, il fait donc sa première année, Hippocagne, et c'est à cette époque-là où je dirais qu'il y a un premier tournant, à la fin de l'année 64-65. Et Omar participe à une bataille rangée dans les couloirs du lycée Louis-le-Grand qui mène vers la Sorbonne, entre différents militants de l'UEC, qui déjà sont tiraillés entre plusieurs tendances, les Italiens d'une part, les pro-Moscou d'autre part, et pour sa participation à cette bagarre, il sera exclu du lycée Louis-le-Grand.
Omar est donc un trublion, mais ça ne l'empêche pas d'être reçu septième à l'École normale supérieure de Saint-Cloud. À Dakar, c'est un événement.
Cette nouvelle aura un retentissement assez important au Sénégal. Parce que quand il rentre à Dakar à l'été 66, son père, tout content que son fils ait été admis à Normale Sup, il sort de sa poche un papier plié en 4 ou en 8, un chiffon, il dit voilà, papa, c'est pour toi. Et c'est son certificat d'admission à l'École normale supérieure.
Qu'est-ce que vous voyez derrière ce geste ?
Déjà, une forme de désinvolture vis-à-vis des structures, vis-à-vis de l'institution académique, qu'il critiquera par ailleurs, de manière assez virulente, autour de 68. Et j'y vois déjà un détachement de ce que peut être le prestige académique qui mène à un prestige potentiellement de pouvoir. Donc déjà, à l'époque, flotte l'idée que Omar a réussi là où Senghor a échoué, puisque Senghor a essayé d'intégrer l'École normale supérieure et n'y est pas parvenu. Donc déjà à l'époque, sans que ce soit forcément explicité partout, mais déjà des gens se font la remarque à voilà un jeune normalien, le premier Sénégalais normalien de l'histoire, là où Senghor a échoué, etc., etc. Donc on voit déjà qu'il y a une sorte d'opposition à distance entre Omar et Senghor.
Il étudie la philosophie, Spinoza, Hegel, Aristote, mais il rencontre aussi la pensée de Mao, dont les idées se répandent à l'époque dans les couloirs de l'école. Lorsqu'en 1967, le réalisateur Jean-Luc Godard décide de tourner La Chinoise, un film sur le maoïsme, Omar est choisi pour jouer son propre rôle. Pull rouge vif, sur chemisier blanc, il fait un exposé à de jeunes intellectuels bourgeois qu'il écoute, affalés sur des sofas, en feuilletant le petit livre rouge. Tendez l'oreille, c'est sa voix.
Notre tâche, aujourd'hui, est tout simplement de poser et d'affronter ces problèmes au grand jour si nous voulons donner un peu d'existence et de consistance théorique à la philosophie marxiste. Est-ce que vous avez des questions à poser ?
Si vous voulez entendre la suite de l'exposé d'Omar, La Chinoise est disponible en VOD sur plusieurs plateformes. Grâce à ce film, Omar devient une petite star dans le quartier latin. Il s'en amuse, mais il mesure aussi la portée de ce rôle dans la France des années 60. Il l'explique à l'époque au micro de l'ORTF dans une interview rare, retrouvée pour RFI par les archivistes de l'INA.
Omar Diop, par la révolution culturelle chinoise, Godard voulait montrer quoi ?
Comment des jeunes gens se servent de quelque chose qui existe pour trouver leur propre solution, quelque chose qui existe, qui s'est constitué en dehors d'eux, qui se trompent, qui ne trouveront pas, parce qu'ils se servent de la révolution culturelle comme un distributeur automatique de solutions. Et c'est pas étonnant qu'à la fin, ils ne trouvent pas ces solutions.
Qu'est-ce que vous veniez faire, je le dis ça dans un certain sens, vous, Omar Diop, Sénégalais, Africain, dans ce film portant ce titre assez explicite, La Chinoise?
J'étais quelqu'un qui venait du tiers-monde, enfin, j'étais un étudiant qui, comme eux, mêle à leur différence, je venais du tiers-monde. Et ce qui est intéressant, je crois, ce qui est nouveau, c'est que dans un film, un étudiant noir venant du tiers-monde et des choses à apprendre à des jeunes gens vivant en France, dans le monde occidental. Si vous voulez, ce n'est pas le rôle traditionnel du noir, je ne pense pas.
Omar suit des cours à l'université de Nanterre. Il aide tous les débats organisés par les groupes d'extrême gauche et de toutes les actions. C'est là qu'il rencontre Mustapha Sarr. L'étudiant franco-marocain est attiré par sa voix.
C'était le seul noir dans le groupe de blancs. Mais le seul noir, non pas qui était en retrait, mais qui était vraiment au centre de cette réunion préparatoire de l'action contre la guerre au Vietnam. On est intrigués quand même. Et c'est Omar Diop qui animait la discussion, qui proposait l'action à venir. Il s'agissait de s'attaquer à des lieux symboliques. Il avait même prévu de faire une action contre l'ambassade des États-Unis, ce qui était injouable, puisque l'ambassade des États-Unis à Paris, elle est attenante à l'Élysée. Moi, j'étais dans un coin, j'ai écouté, j'ai suivi cette réunion, et puis je sors, et là, il y a quelqu'un qui me pose la main sur l'épaule. Je me retourne, c'était Omar. Il m'interpelle comme ça, « Qu'est-ce que tu fais là, petit frère ?»
Il vous dit ça.
Voilà. Et on ne s'est plus quitté pratiquement, après, pendant tout le temps qu'il a été à Paris. Et ce petit frère est resté. Il m'appelle petit frère. Et c'est quelqu'un qui ne passe pas inaperçu, en fait. D'abord, son élégance vestimentaire, sa posture fière, sûre de lui, une certaine intelligence qui transparaît tout de suite dans son regard, le regard qu'il jette aux autres, le regard qu'il jette aux choses.
L'université de Nanterre où étudient Omar et Mustapha est le berceau de mai 68. Les deux amis jouent un rôle actif dans la révolte. Sur une vidéo restée célèbre, on voit Omar le 3 mai aux côtés de Daniel Cohn-Bendit, figure de la contestation étudiante en France. Omar sourit en l'entendant proclamer l'occupation de la Sorbonne.
Personne d'entre nous n'a jamais prétendu que le problème révolutionnaire se réglait en un soir, en une nuit. Nous ne sommes pas des romantiques qui croient que la révolution est faite parce qu'en une nuit nous avons fait des barricades. Ceci est faux.
Omar, c'était un improvisateur de tonnerre. C'était vraiment un orateur. Alors, il y a une nuance que je mets, moi, personnellement, tribun et orateur. Cohn-Bendit était un tribun exceptionnel. Mais il n'a pas d'idée. Donc, il y avait un rituel. On se mettait autour de lui, Omar, Jean-Pierre Duteuil, Yves Flèche, moi-même. Et on lui donnait ce qu'Omar a appelé les munitions. Il disait, il a besoin de munitions, on va lui donner avant ses interventions importantes.
Il y avait Cohn-Bendit qui était le plus flamboyant, qui lui aussi avait une vraie culture politique et surtout un bagou extraordinaire.
Antoine Lefébure, un autre ami proche d'Omar.
Alors Cohn-Bendit, c'est lui qui parlait dans le micro, c'est lui qui parlait quand il y avait un journaliste, etc. Et Omar qui était un petit peu l'idéologue, celui qui réfléchissait, celui qui donnait les éléments de discours, etc., mais qui restait un petit peu discret. C'était l'intello du groupe, il était reconnu par les autres comme l'intello, puisque je crois que c'était le seul normalien de la bande, il n'y en avait pas d'autres. Il m'a totalement pris sous son aile et moi j'étais ravi, il était plus âgé que moi, il était plus cultivé, plus intelligent, et il avait beaucoup d'humour, et en fait, et c'est là où on se rejoignait, c'est que on riait beaucoup. Ça nous faisait énormément rire, et moi ce qui me plaisait, et ce qui plaisait aussi à Omar, je crois, c'est de voir comment la société se transformait tous les jours à toute vitesse. Bon, on avait un boulevard qui était le boulevard Saint-Michel, et puis deux jours après, on avait une plage à la place du boulevard. Hein, l'expression sous les pavés, la plage, il n'y avait plus que du sable.
Comme tous les leaders étudiants de l'époque, Omar est surveillé par les services français. Mustapha Saha se souvient qu'il était sur ses gardes.
Sur le boulevard Saint-Michel, une fois, en marche, il me dit « Arrête-toi, on va s'attarder une heure ou deux devant la vitrine. » Moi, je ne comprends pas ce qu'il m'a raconté. Et là, il me dit « On est suivi. » Mais c'était après le 3 mai. Donc, dans le dossier de police, il y a un carton qui dit « Ordre à tous les flics de France et de Navarre de suivre Omar et de rendre compte de toutes ses activités jour et nuit. » Donc, à partir de ce moment-là, c'est fini. Il est vraiment sous surveillance policière permanente. Donc, on était surveillés, ça c'est évident. Moi, je suis passé à 3 reprises, après 68, au tribunal.
Omar a troqué les chemises à fleurs pour le col Mao. Progressivement, il prend ses distances avec l'élitisme français et se met à qualifier les grandes écoles d'attrape-nigauds. Ce qu'il passionne, c'est la contre-culture venue d'Angleterre et des États-Unis. Omar écoute les Pink Floyd, devient ami avec les Rolling Stones, il leur rend même visite à Londres. Il réfléchit au rôle de l'art dans la lutte. Révolution culturelle chinoise, guerre du Vietnam, mai 68, Omar se nourrit de tout, mais garde toujours son pays natal en ligne de mire. Les services de renseignement français notent sa présence le 31 mai 1968 lors de l'occupation de l'ambassade du Sénégal à Paris par la Fédération des étudiants africains de France. La même année, Dakar se soulève aussi. L'université est en grève, occupée par 1500 étudiants. Omar suit les événements depuis Paris, plusieurs de ses frères y participent. Le président sénégalais fait appel au renfort de l'armée française. Le Sénégal est indépendant depuis 10 ans et le pouvoir de Senghor est vivement contesté, explique l'historien Ibrahim Atioub.
Le régime fait face à des difficultés sérieuses qui font que les promesses qui étaient annoncées avec l'indépendance, manifestement, ne se sont pas réalisées. Sous Senghor, il n'y a pas eu de rupture avec l'économie de traite. La France reste largement dominante dans l'économie sénégalaise au niveau de l'industrie, au niveau du commerce. Tout est sous contrôle français et les Sénégalais, comme le dit le personnage de Sembène, se contentent des miettes du festin. Sur le plan démocratique, Senghor a institué le parti unique, a éliminé tous ses adversaires politiques, soit par cooptation ou par répression. Il n'y avait qu'une seule télévision, un seul journal, un seul parti. L'expression la plus forte de dissidence par rapport au pouvoir de Senghor s'exprime dans les milieux scolaires, en particulier les syndicats d'enseignants qui ont été supprimés, qui ont été dissous par Senghor, mais qui renaissent sous des formes nouvelles, en s'articulant au mouvement étudiant et même continue de revendiquer, par exemple au niveau de l'université principalement, l'africanisation des cadres, l'africanisation du personnel enseignant de l'université, l'africanisation de l'orientation de l'université, parce que jusque-là, l'université de Dakar, qui qui est la seule université du pays, est en fait une université française.
La crise dure des mois et la répression est sévère. Pour casser le mouvement, le président Senghor décide d'éloigner des centaines d'étudiants et de syndicalistes qui sont envoyés dans des camps militaires. Le père d'Omar, trésorier du syndicat de médecins, figure parmi les personnalités arrêtées. Au même moment, les étudiants étrangers de Dakar, ouest africains le plus souvent, sont expulsés, renvoyés par avion dans leur pays d'origine. Lorsque le président poète se rend en Allemagne de l'Ouest en septembre 1968, il est accueilli par des slogans hostiles et des barricades. Omar est toujours à Paris. Mais aux yeux des services de renseignement français, il est l'un des instigateurs de cette marche. Son ami, Daniel Cohn-Bendit, est en tête de cortège.
Ainsi, à Francfort, des échauffourées ont opposé à la police des manifestants de gauche qui voulaient protester contre la remise à M. Senghor, le président de la République du Sénégal, du prix de la paix décerné par les libraires allemands. Il y a eu quelques blessés et des arrestations, parmi lesquelles celle de Daniel Cohn-Bendit, l'un des dirigeants du mouvement du 22 mars. Les étudiants appartenant au SDS, c'est-à-dire au mouvement socialiste allemand d'extrême gauche, reprochent au président Senghor d'avoir fermé l'université de Dakar. Le gouvernement fédéral, en la personne de M. Willy Brandt, s'est excusé de ces incidents auprès du chef de l'État sénégalais.
La complaisance dont bénéficie Senghor de la part des chancelleries occidentales insupporte Omar. Sa réflexion anti-impérialiste s'affine, il prend la plume. En témoigne ce texte inédit retrouvé par Florian Bobin, son biographe, dans les archives de la famille Blondin.
Le mouvement de révolte né à l'université de Dakar, en se propageant dans les populations urbaines du Sénégal, a porté au régime néocolonial incarné dans la personne de Senghor un des coups les plus violents qu'il ait jamais reçu. Une des conséquences les plus immédiates du soulèvement est l'impossibilité où se trouve désormais la clique dirigeante de maintenir le voile qui autrefois masquait au public son impuissance et sa faiblesse. Pour avoir tenu en échec l'appareil de répression du régime, pour avoir accentué sa paralysie politique, la population urbaine et surtout la jeunesse sont en droit de réclamer le mérite d'avoir démontré que l'impérialisme et ses agents sénégalais sont des tigres de papier.
Omar a de qui tenir. Car rappelez-vous, il est né à Niamey. Son père, frondeur, y a été muté par l'administration coloniale pour sentiments anti-français. Florian Bobin nous raconte.
Son père, qui était donc médecin africain, a été affecté sous forme d'une sanction disciplinaire au Niger. Donc le Niger étant la colonie d'Afrique occidentale française la plus à l'est. Et le Sénégal étant celle qui est le plus à l'ouest.
Donc le plus loin possible.
Le plus loin possible, aux confins de l'Empire, en fait. Pourquoi est-ce qu'il a été sanctionné de la sorte? Parce que, donc, après ses études à l'école normale William Pontier de Sébikotène, qui est un peu la fabrique à élite, aux auxiliaires africains, ouest-africains des Français, des colons, lui entame donc de nouvelles études de médecine à l'école de médecine de Dakar, puis son service militaire. Donc en 45-46, et c'est à ce moment-là où, sachant que, et c'est un point très important, le père d'Omar est un citoyen français à l'époque, puisque lui n'est pas né à Saint-Louis, Saint-Louis étant une des quatre communes du Sénégal, mais son père étant né à Saint-Louis. Et donc c'est par son père qu'il obtient la nationalité, la citoyenneté française. Étant donc français africain, un français noir, il estime malgré tout qu'il a le droit d'avoir accès à tout ce que les officiers militaires français, européens, blancs, eux aussi ont accès. Donc notamment tous les espaces à l'intérieur du camp dans lequel il faisait son service militaire, et notamment le mess des officiers. Et donc c'est à l'occasion d'une pause que le père d'Omar Blondin Diop, qui s'appelle Ibrahima Blondin Diop, décide de rentrer au mess des officiers. Et il se voit son accès refusé. Donc il proteste, et évidemment, sa protestation lui vaut convocation et lui vaut expédition aux confins de l'Empire. Et à l'époque, et c'est très intéressant parce qu'on voit le parallèle aujourd'hui, il y a déjà ce vocable anti-français. C'est-à-dire qu'il est considéré, du fait qu'il conteste l'ordre, le statu quo colonial, il est considéré comme un élément anti-français, qui rappelle évidemment toute la discussion actuelle sur le supposé sentiment anti-français. Et le combat Audemars qui va évidemment être dans ce siège-là.
Pourquoi on lui refuse l'accès ?
Parce qu'il est noir, parce qu'il est africain. Et les papiers, qu'ils soient originaires ou non des quatre communes, pour beaucoup d'officiers coloniaux, ça n'a aucune importance.
Le scénario se répète pour Omar. À l'automne 1969, les autorités françaises prennent un arrêté d'expulsion contre lui. L'étudiant est alors en vacances à Dakar et il l'apprend en essayant de revenir à Paris.
Mon cher Antoine, au mois d'octobre, je prends l'avion pour Paris. Arrivé à Bordeaux, le contrôle de police demande les papiers. Je présente les miens et après vérification, on me fait savoir que je suis expulsé du territoire français. Je passe la nuit dans une cellule de l'aéroport du Bourget et le lendemain, les autorités françaises me réexpédient à Dakar.
L'arrêté d'expulsion est signé de la main du Premier ministre français en personne. Omar est donc bloqué à Dakar, son père est effondré. Il demande au président Senghor d'intervenir. Il l'a connu alors qu'il était médecin dans son village. Senghor écrit à Pompidou pour que la France revienne sur sa décision. Il accompagne le courrier officiel d'une lettre manuscrite.
Dakar, le 2 novembre 1969. Mon cher Georges, comme tu le sais, l'assistance technique française diminue d'année en année et d'une façon drastique dans certains secteurs comme l'enseignement. Il nous faut former rapidement, donc difficilement, des cadres de relève, mais à un niveau international. Encore une fois, nous ne demandons pas qu'il retourne à Paris, mais il se trouve que nous ne pouvons le faire recevoir qu'en France. C'est une faveur exceptionnelle que je te demande. Merci d'avance, fidèlement.
Pourquoi Senghor intervient-il ? Voit-il en Omar un futur cadre pour son pays, comme il l'écrit à Pompidou, ou plutôt un agitateur qu'il vaut mieux écarter alors que les braises de mai 68 sont encore fumantes dans les rues de Dakar ? Après la répression de la révolte étudiante, une opposition clandestine s'organise. Omar en fait partie, il est assistant de recherche à l'université et diffuse à Dakar les méthodes subversives expérimentées en Europe. Alioun, l'un de ses petits frères, s'en souvient.
Pendant la période où Omar est revenu ici, après avoir été expulsé, il a quasiment passé son temps à sillonner les quartiers populaires de la ville. Et il s'est fait des amis dans les gens, effectivement, de conditions sociales beaucoup moins favorisées, mais qui étaient des gens qui étaient des révoltés, qui étaient, on les appelait les gens marqués par la haine. Et c'est de vrais révolutionnaires qui avaient une grande admiration pour Omar parce que d'abord, il partageait tout avec eux et puis ensuite, il les éveillait, il leur donnait une conscience révolutionnaire. Et tous les jours, tous les après-midi en réalité, il y avait des espèces de meetings à la maison, quoi. Et que Omar animait. Et donc, tous les courants politiques, j'ai suivi Omar parce que lui, il me mettait toujours sur ses genoux, en fait. Et donc, je l'entendais parler. Donc, il était très, 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 très... C'est pas parce que c'est mon frère, mais il était très éloquent, quoi. Et puis, quand il parlait, ça portait, quoi. Donc, du coup, il était... Tout y passait, quoi. Depuis le combat contre le néocolonialisme, il appelait ça l'impérialisme et le néocolonialisme. C'est comme ça qu'il disait beaucoup. Et puis, ensuite, on avait tous les différents courants qui s'opposaient, les maoïstes contre les trotskistes, etc. Donc on entendait toutes sortes de discussions où c'était très, très, très virulent et houleux, mais ça restait courtois. En fait, il a épousé plusieurs courants politiques. À un moment, il a été maoïste. Ensuite, il a été trotskiste. Ensuite, il a été marxiste révolutionnaire. Et le dernier courant qu'il a épousé, c'était le situationnisme. Alors, c'était quelqu'un qui parlait et qui remettait tout en question. Et il disait que le pouvoir devait revenir au peuple.
Omar devient donc une figure connue à Dakar dans les milieux universitaires et contestataires. Avec d'autres amis, ils fondent en 1970 le mouvement des jeunes marxistes-léninistes du Sénégal, un mouvement clandestin. Mais rapidement, l'intellectuel est accusé de ne pas suivre la ligne du parti. Il en est exclu. Son biographe reconnaît là son esprit libre et son aversion pour l'autorité.
Oui, et puis ça lui sera reproché par certains, à la fois en France et au Sénégal. Comme quoi il est intenable, il ne peut pas s'aligner aux règles d'un parti, qu'il est insaisissable, que voilà. Mais c'est son mode d'être, c'est son mode de faire. Il refuse l'embrigadement. En tout cas, lui le conçoit comme ça, le fait d'être trop longtemps dans un parti, dans un mouvement, dans un groupuscule, pour lui, c'est pas un plan de carrière, quoi. Il se voit pas comme un dirigeant de parti politique, disons. Mais il refusait, je pense, déjà ce rapport, voilà, hiérarchique, en fait, à la lutte. Pour lui, c'est pas un leader qu'il faut, c'est un mouvement massif, avec évidemment des gens qui pensent, qui réfléchissent, mais sans de leader autoproclamé, des capitaines autoproclamés de la révolution. Pour lui, c'est pas comme ça qu'il conçoit les choses.
Ces analyses, Omar les partage dans les rues de Dakar, mais les déploie aussi à travers des écrits rassemblés par son biographe Florian Bobin. Du soir au matin, le jeune homme griffonne sur la place des intellectuels, la révolution sociale ou encore le rôle de la culture dans la lutte. En témoigne ce projet de théâtre urbain qu'il rédige lors de son année à Dakar.
Alors ce projet de théâtre urbain présente l'idée un peu à la Augusto Boal et son projet de théâtre de l'opprimé. C'est un théâtre dans lequel chacun et chacune joue son propre rôle. D'une certaine manière, comme Omar l'a fait dans La Chinoise. Ou si des paysans il y a sur scène, ce sont des paysans qui se jouent eux-mêmes, qui jouent leur propre rôle. Même chose pour les ouvriers, même chose pour les jeunes étudiants, etc. Et l'idée, c'est, à travers ce théâtre, de présenter un miroir de la société et que chacun également se réapproprie sa propre parole. Et donc, il met en place l'idée de plusieurs rubriques, l'idée de présenter des personnages types, tel un policier dans le quartier populaire de la Gueule Tapée, ou bien un jeune qui reviendrait de Casamance, du sud du Sénégal, pour expliquer à sa famille ce qui est en train de se passer à la frontière sud, donc la guerre de libération de la Guinée portugaise, aujourd'hui la Guinée-Bissau. Et donc c'est justement un peu rendre au peuple, dans son acception générale, les moyens de son expression.
À Paris comme à Dakar, Omar est encombrant. La négociation autour de son expulsion s'éternise. Les deux capitales s'échangent des courriers à son sujet pendant un an. Fin 1970, le président français donne enfin son feu vert, mais entre-temps, Omar a dû donner des garanties.
Monsieur le président, afin de me permettre de poursuivre mes études à l'école normale supérieure, j'ai l'honneur de solliciter de votre haute bienveillance l'annulation de la décision précitée. Par ailleurs, compte tenu de mon statut, je prends l'engagement de me tenir en dehors de toute activité politique ou syndicale française. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma très haute considération. Omar Diop.
Avant de prendre l'avion pour Paris, Omar doit se plier à contre-cœur à une dernière courbette. Rencontrer le président Senghor. Cher Amala se souvient de cet épisode resté mythique dans la fratrie Blondin.
Mon père force Omar à aller voir Senghor. Et je me souviens de ça parce qu'il y a eu un débat. Papa voulait qu'Omar se mette en costume cravate parce que c'était la règle. On n'entre pas au palais du président Senghor sauf en costume cravate. Et Omar a dit, ben non. Moi, je porte plus de costume cravate. Donc, je ne porterai pas ce costume cravate. Alors, mon père a insisté, Omar a refusé. C'était assez rare. Mais il y a un de mes oncles qui dit à Omar, bon, d'accord, qu'à cela ne tienne, puisque tu n'aimes pas les costumes européens, il y a le costume marocain. C'est les gandouras, avec les petits boutons ronds. Là. Ça fait très habillé, et c'est une tenue nationale africaine d'un pays arabe. Donc, Omar a accepté. Et il est donc allé à cette audience avec Senghor. Et donc, ils sont allés. Omar a porté ses lunettes noires. Parce qu'à l'époque, c'était les lunettes noires que portaient les panthères noires. Vous voyez, ça faisait un petit peu mystérieux. Le nègre rebelle, c'était la mode. Hein. En tout cas, chez nous, entre nous, c'était un peu la mode. Les lunettes noires. Donc il vient avec ses lunettes noires et sa barbe. Et puis sa gandoura. Et mon père explique, vient voir Senghor et puis parle avec lui, etc. Et Omar ne dit pas un mot. Toute la conversation, il n'a pas dit un mot.
À entendre le récit de cette rencontre, vous vous doutez bien qu'Omar ne va pas se contenter de retourner sagement étudier en France et rester éloigné de la politique. Les graines révolutionnaires qu'il a semées au Sénégal et au sein de sa fratrie vont le pousser à se radicaliser. Un autre voyage l'attend.